Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. On vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un album qui met en scène Paul-Émile Victor, immense explorateur emblématique du XXe siècle. Son titre, c'est Paul-Émile Victor, la soif d'aventure, de 1907 à 1935. Il est signé Stéphane Dugast et Stéphane Niveau. Ils sont au micro tous les deux de Fred Michel, un échange enregistré lors des rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier. C'est la 379e. Émission de Dans ma bulle.
Bonjour, merci d'être avec nous sur Dans ma bulle en compagnie de Stéphane Dugast et Laurent Seigneuret depuis les rendez-vous de l'aventure à Lons-le-Saunier. Aujourd'hui, on va parler de Paul-Émile Victor car vous lui avez consacré une bande dessinée dont le premier volume sort en avril aux éditions du Sequoia. Alors Stéphane Dugast, comment elle est née cette bande dessinée, cette aventure, parce qu'elle est née dans des conditions un petit peu particulières?
Ouais, on est à Koulsouk, au Groenland oriental, et je suis avec Stéphane Niveau, que j'ai emmené dans mes valises pour le tournage d'un film documentaire qui va s'appeler Paul-Émile Victor, j'ai horreur du froid, et le producteur sur le billet retour pour aller transiter vers l'Islande, puisque quand vous allez au Groenland oriental, vous transitez par l'Islande, c'est trompé de billet à un an près. Donc les autorités ne veulent pas nous laisser décoller du Groenland, et on se retrouve cloué au sol. Et avec Stéphane, il fait un temps, on est au mois de septembre, mais il fait un temps pourri. Ça grésille, ça neige, mais la neige ne tient pas, il fait froid. Et Koulsouk, c'est vraiment la petite île où il y a l'aéroport, mais il n'y a pas grand-chose. Et de fil en aiguille, on a une passion commune tous les deux pour la bande dessinée. Et on décide de s'atteler à l'écriture d'une série de bandes dessinées que personne n'a jamais écrite, avec du polaire, avec... bref, trépidant. Et de fil en aiguille, on travaille, on l'écrit. Et en rentrant en France, on se dit, on va la présenter à toutes les maisons d'édition. Et
ça, c'est en quelle année?
On est en 2019. Et puis évidemment, toutes les maisons d'édition, même si Stéphane est un spécialiste, comme moi, de Paul-Émile Victor, même si Stéphane a écrit des livres, que moi j'ai écrit aussi des livres, que j'ai fait des films, que je suis reporter, bah les grandes maisons d'édition nous adressent à peine la parole. Entre-temps, je confie moi le scénario à un ami qui s'appelle Christian Caillot, bien connu dans le milieu de la bande dessinée, auteur, dessinateur chevronné, et qui me dit, écoute, ta bande dessinée, Fripounet, là, c'est un peu gentil, c'est le scénario, il faut le revoir. Donc, et là, Steph Niveau a une idée géniale. Il me dit, mais on connaît tous les deux Paul-Émile Victor, il faut qu'on propose la bande dessinée de Paul-Émile Victor. Et c'est ainsi que Laurent va entrer dans nos vies. Et puis surtout, Alain Mandel, des éditions du Sequoia, va dire banco sur 4 tomes.
Parce qu'on peut rappeler qu'il y a plein de choses qui ont été écrites sur Paul-Émile Victor, des tas de romans, de livres, d'essais, des films, des documentaires. Mais c'est la première fois qu'une bande dessinée est publiée à son sujet.
Pour être honnête, il y a une page de bande dessinée qui avait été dessinée dans les années 60 sur Paul-Émile Victor pour les chocolats Poulain, je crois. Mais c'était une page. Et j'avais à cœur, adorant la bande dessinée, et je m'étais mis cet objectif aussi de faire la bande dessinée de Paul-Émile Victor. J'avais travaillé sur un autre projet, mais pareil, j'étais pas estampillé scénariste. Et puis, bah, il y a eu cette rencontre avec Steph Niveau, avec Alain Mandel. Et puis, tout de suite, Alain nous a dit, bah voilà, moi, je connais un dessinateur, Laurent Seigneuret. Et c'est là que Laurent est arrivé dans l'histoire.
Justement, Laurent, racontez-nous comment vous avez rencontré les deux Stéphane.
Par le biais d'Alain. Au départ, j'avais travaillé avec Alain sur un autre grand personnage qui est Pasteur. Donc on avait sorti un album. Je pense qu'il avait dû montrer d'ailleurs l'album au de Stéphane. Et puis Alain m'a dit, mais tiens, j'ai deux jeunes scénaristes qui seraient intéressés pour faire un album. En fait, plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y avait une autre histoire sur laquelle on va pas épiloguer maintenant, mais on travaille aussi. Et puis, ils avaient cette ambition de faire un album BD sur Paul-Émile Victor. Sauf que Paul-Émile Victor, raconter sa vie en album, c'est compliqué. Ce qu'on a fait d'ailleurs sur Pasteur, il aurait fallu qu'on fasse au moins 4 albums aussi. Et là, du coup, Stéphane Niveau a demandé à Alain si on pouvait le faire, mais sur 4 albums. Alain a dit banco. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti en fait. Alain m'a présenté 2 scénaristes. Les 2 scénaristes se sont mis en rapport avec moi, les 2 Stéphane. Ils m'ont envoyé leur projet, je l'ai lu et j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré en fait.
Alors justement, pourquoi 4 tomes et pas un seul volume ?
Bah, La vie de Paul-Émile Victor, c'est comme un roman de, comme un roman déjà tout court, comme un film hollywoodien ou comme un film Netflix.
Et c'est des étapes aussi.
C'est des étapes, c'est une naissance à Genève, mais surtout il grandit à Lons-le-Saunier. Ensuite, il va se frotter à la marine, il va jusqu'aux États-Unis, marine marchande, marine de guerre. Il vient à Paris, des études d'ethnologie, il part au Groenland, il revient, la guerre, la Scandinavie, les États-Unis, le Groenland, l'Antarctique, puis il passerait les 20 dernières années de sa vie en Polynésie française, à Bora Bora. Et c'est des hauts, des bas, des échecs, des succès. Et c'est un personnage public qui faisait partie vraiment des personnalités préférées des Français, qui était l'explorateur des pôles. Et sa vie, je le disais tout à l'heure, moi j'avais voulu me concentrer sur une période de sa vie. J'avais écrit un bout de scénario, on va dire. Et puis ses fans, niveau un système, ils disaient, mais non, mais là on a l'ambition et la possibilité d'avoir 4 tomes. Et là je me suis dit, bah ouais, faut y aller. Et 4 tomes, c'est tout juste suffisant pour raconter la vie du bonhomme, tellement il y a d'épaisseur et tellement il incarne à lui tout seul le XXe siècle. C'est un fils qui ne le sait pas, d'émigrés juifs, qui s'intègre en France, il y a cette Première Guerre mondiale qui va marquer, puisqu'ils vont déménager de Saint-Claude. Vous découvrirez ça
dans la BD. Oui.
Voilà. Et ensuite, il y a sa vie d'avant-guerre où il devient l'explorateur très médiatique, on disait une vedette. Et puis cette Seconde Guerre mondiale qui casse tout, il rebondit sur les expéditions polaires françaises. Bref, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rebonds et c'est du Netflix en bande dessinée.
Il a une vie complètement romanesque.
Ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'en plus il a un physique. J'ai tendance à dire que c'est le Clark Gable de l'aventure polaire, des beaux yeux bleus, un visage émacié et surtout un charisme. Et il sait raconter les histoires, il sait se mettre en lumière, ce que nous ne manquerons pas de lui reprocher ses camarades de jeu, parce que bah, il prend toute la lumière et des fois il en oublie les autres. Mais néanmoins, c'est ce personnage romantique, ce boy scout. Il a fait du scoutisme à Lons-le-Saunier. On est à Lons-le-Saunier. Il a grandi à Lons-le-Saunier. Il s'est forgé dans le Jura, sa relation avec la nature. Il a fait du ski en haut du Mont d'Aule, Rousse, là-haut. Et ce personnage, beaucoup de gens m'ont dit, mais il avait plein de défauts. Il aimait les femmes. Non, il aimait l'argent. C'était pas un bon businessman. Oui, c'est un opportuniste. Oui, c'est quelqu'un qui aimait la lumière, mais j'aime bien ses héros.
Il était déterminé aussi. Hein.
Complètement. Et puis surtout, bah, il fait partie de ces gens qui sont allés au bout de leurs rêves et qui avaient des rêves de Polynésie avec une image d'une vaïnée polynésienne langoureuse qu'il avait découpée dans le journal Illustration, une image d'une esquimau, d'un esquimau, qui est un chasseur au harpon. Et il n'a eu de cesse toute sa vie que de vouloir vivre ses rêves. Et moi, j'aime ces personnages.
Je voudrais juste qu'on continue avec vous, Stéphane, parce que je sais que vous avez une passion pour la bande dessinée. Quand est-ce qu'elle est née, cette passion ? Tout jeune ?
Oui, à la bibliothèque, on ne disait pas médiathèque, de Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique.
C'est précis.
À 20 km de Nantes. Et c'était l'accès à Tintin, à Astérix, classique. Achille Talon, j'avais pourtant que 9-10 ans, mais Achille Talon me fascinait. Et puis c'est surtout la vraie révélation, moi, c'est Blueberry, puisque Blueberry, c'était pour moi les grands espaces, l'aventure, tout ce qu'il y avait. Et la bande dessinée m'a ouvert beaucoup, beaucoup d'horizons. Ça m'a permis de lire aussi des classiques, puisqu'on a commencé à adapter des classiques en bande dessinée. Et puis, dans l'Ouest, qui était très catholique et religieux, j'ai lu la Bible en bande dessinée. Donc, du coup, je me suis fait une bonne culture. Et je dis toujours aux gens, étant un enfant de Jules Verne, je suis né à Nantes, et c'est Jules Verne qui m'a fait voyager, Phileas Fogg, le tour du monde de 80 jours. Et je dis toujours aux gens que c'est bien que nos jeunes commencent aussi par la bande dessinée. Et on peut commencer par la bande dessinée, lire des classiques, voir les films, on peut tout faire dans tous les sens. Et c'est là la force de la bande dessinée.
Et vous avez des points communs. Enfin, le principal point commun, c'est que vous nous faites voyager et aussi vous créez des aventures. Alors, je m'adresse à vous maintenant. Laurent, vous, la bande dessinée, c'est né quand, cette passion ? Qu'est-ce que vous lisiez ?
La bande dessinée, c'est depuis que je suis enfant aussi. Hein, j'ai commencé par les journaux, bande dessinée dans les journaux. Après, j'ai attaqué tous les grands noms de la BD de l'époque. J'ai lu des Strange, parce que j'adorais les Marvel, voilà. Et puis j'ai continué ado sur des bandes dessinées plus, on va dire, plus réalistes. Un de mes auteurs, dessinateurs préférés étant Jean Giraud, qui a été effectivement avec Blueberry, qui a été aussi le berceau de mon adolescence. Après, j'ai continué avec tous les grands noms de cette époque-là, Gillon, tous ces gars-là, nos pères en BD en fait. Et puis j'ai moi-même démarré la BD, sur un concours de circonstances. J'avais un emploi, j'ai perdu cet emploi suite à une maladie. J'ai rencontré sur les festivals et sur les salons où j'allais beaucoup, beaucoup d'auteurs, des grands noms de la bande dessinée, avec qui je discutais, avec qui j'ai lié des amitiés. Et puis un jour, j'ai rencontré Bruno Rocco, qui habitait en fait juste à côté de chez moi. Et je ne le savais pas, donc il était auteur déjà depuis aussi de nombreuses années. C'est avec lui que j'ai commencé à dessiner. Parce que je n'avais jamais dessiné de ma vie. J'ai commencé à dessiner avec lui et puis au fil des mois de travail, il m'a donné de plus en plus de choses à faire. Et à un moment, il travaillait sur le dernier volet du Décalogue de Franck Giroux. Et il m'a demandé de faire les décors de du tome 11 finalement du Décalogue. C'est un peu bizarre, mais bon, il y a un tome 11. Et donc j'ai fait tous les décors. Et à la fin, il a marqué « Décor, Laurent Seigneuret », un peu comme au théâtre. Et du coup, je suis allé chez Glénat avec lui, qui était son éditeur à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré. En fait, il a montré ce que je faisais à Glénat, donc il m'a mis le pied à l'étrier, quoi.
Et depuis, vous n'êtes pas arrêté?
Et depuis, je ne me suis pas arrêté. J'ai travaillé pour de nombreuses maisons d'édition, parce que comme Stéphane disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quand même difficile. On présente beaucoup de projets et il y a très peu de projets de prix. On est quand même un grand nombre d'auteurs. À l'époque où j'ai démarré, il y a presque 20 ans, on était quand même vachement moins nombreux. C'était plus facile de caser un projet. Aujourd'hui, ça devient très, très compliqué. Donc, il faut un projet qui soit vraiment bien monté, bien ficelé, tant sur le scénario que sur le chemin de fer, que sur les découpages et que sur le dessin. Pour présenter quelque chose et pour que ça soit pris, il faut vraiment intéresser l'éditeur et ça devient complexe. Donc là, on a trouvé un éditeur qui s'est engagé sur 4 albums. C'est pas fréquent aujourd'hui.
Alors justement, comment vous avez travaillé sur la construction de cet album, de ce premier chapitre avec les Stéphane?
Alors, moi en fait, je ne fais que les dessins. Je fais déjà que la mise en page, qui est déjà pas mal. En fait, ceux qui construisent la bande dessinée, ce sont les deux scénaristes, les deux Stéphane. Donc, je suppose qu'ils ont fait comme la plupart des scénaristes, ont d'abord écrit leur histoire, ensuite ils l'ont découpé. On va dire entre guillemets chapitré, et puis ils l'ont mis en découpage en planche. Donc en fait, ils m'envoient un scénario sur lequel il y a d'inscrit première planche, case 1, case 2, case 3, case 4, avec l'action qu'ils ont imaginée ou qu'ils ont pensée, et les textes des personnages. Et à partir de là, moi, j'adapte et j'arrange à ma sauce dessinateur ce qu'eux ont écrit et mis en page. Voilà.
Vous avez fait beaucoup d'allers-retours ?
D'allers-retours.
Bon, par rapport au scénario, au dessin ?
Alors, en fait, on travaille beaucoup, on est très souvent en contact par téléphone. Voilà. Quand il y a quelque chose qui me semble ne pas aller, je les appelle, je leur dis, je leur demande si on modifie. Alors, il n'y a souvent aucun problème. Ils sont très conciliants. Ça, c'est génial. J'ai travaillé avec d'autres scénaristes qui étaient beaucoup moins conciliants. Et du coup, comme j'ai, entre guillemets, quand même une expérience bédestique, on va dire, c'est vrai qu'ils me font confiance au niveau du découpage des cases, de façon à ce que tout soit bien lisible, soit bien imbriqué. Parce que le problème d'une bande dessinée comme PEV, c'est que il y a quand même une droite ligne à suivre. Ils peuvent romancer un peu, mais sa vie, on peut pas l'inventer. Elle est déjà tracée, elle a déjà été faite, donc il faut la raconter. Donc il faut beaucoup de documentation. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pas facile à trouver. Ensuite, on doit raconter des actions, et des fois des actions qui peuvent prendre du temps, où au cinéma, on aurait un quart d'heure pour raconter une scène ou une action. Nous, on est limité en 2 ou 3 cases. Donc il faut qu'on arrive à tout imbriquer, à tout rentrer dans très peu de cases finalement. Et quand on dit qu'on va faire l'histoire en 4 albums, c'est pas beaucoup. Pour raconter une telle vie, c'est vraiment pas beaucoup. Après, vous aviez dit pourquoi pas le faire en un seul. Oui, on aurait pu faire un one-shot, mais un one-shot ça aurait fait 400 pages, quoi. Donc une BD de 400 pages, je pense que pour le public, ça aurait pas été génial non plus. Donc voilà, c'est vraiment très difficile. On doit raconter une histoire complète en très peu de planches et très peu de cases. C'est ça, en fait, la bande dessinée. Tout réside dans la complexité de tout faire comprendre en très peu de place.
Justement, Stéphane Dugast, comment on fait pour résumer une vie en 4 volumes de 56 pages?
C'est un travail schizophrénique, puisque j'ai une biographie de 488 pages derrière moi, j'ai une biographie illustrée de 250 pages, les deux coécrites avec Daphné, Victor, Fit, Paul-Émile. J'ai fait trois films qui tournent autour de Paul Émile Victor. Un film dans les pas de Paul Émile Victor au Groenland, où j'ai marché dans ses pas, mais il en est question. J'ai fait un biopic sur Paul Émile Victor et j'ai fait aussi récemment un film sur les expéditions polaires françaises dont il est le grand artisan. Et si j'ose dire, à chaque fois, il faut changer de casquette. Pour devenir scénariste, j'ai même suivi une formation à la Société des gens de lettres, la SGDL, une très bonne formation de l'écrit à l'écran avec Vincent Ravalec pour me glisser dans la peau du scénariste. Et tu sais, en devenant scénariste, il va falloir condenser, aller à l'essentiel. Moi, j'avais une peur bleue des dialogues mièvres parce que la vie de Paul Émile nécessite de l'action, mais dans les dialogues, je voulais que les dialogues soient... Il y a des dialogues, évidemment, c'est de la bande dessinée, mais moi, c'était une nouveauté pour moi, les dialogues. Et j'avais aussi envie, quelque part, qu'il y ait cette voix intérieure. Alors, ce journal de bord de Paul Émile qui a une adaptation de ce qu'il a écrit, parce que
c'est pas son vrai journal de bord.
Si, je m'en approche, mais il y a par moments des tournures de phrases, des longueurs où il faut tout condenser, et j'ai la prétention depuis 18 ans de me dire que je connais suffisamment Paul Émile Victor pour pas le trahir. Et donc je pense avoir glissé cette subtilité qui agace profondément Stéphane à un niveau, l'autre Stéphane qui me dit non. Et je trouve que ça donne une poésie. C'est, en plus, quand on est en expédition, pour l'avoir vécu, d'avoir les dialogues, l'action, et par moments il n'y a même pas besoin de bulles, parce que quand tu vois marcher deux gugus dans la neige jusqu'aux genoux, que c'est la tempête, tu comprends que c'est chaud, qui peuvent y passer. Mais si tu as cette espèce de voix intérieure, narrative, espèce de voix off peut-être, très très épurée. Et puis après, la difficulté pour moi en tout cas, c'est de bien lier les actions, de bien les choisir, et qu'on ait d'une planche à l'autre envie de découvrir, quoi. Avec des fois des frustrations totales et absolues, puisqu'on a évidemment un plan de principe, on a chapitré, mais là sur le deuxième tome, le scénario est fini. Moi je pensais finir plus tard, mais on s'est un petit peu allongé pour que d'ailleurs on ait envie de lire à la fin du tome et envie d'avoir la suite. Et donc tout ça est juste passionnant, et après ce qui est intéressant, c'est nos échanges avec Laurent, et effectivement on est plutôt conciliant parce qu'on s'estime un petit peu des rookies, des débutants, et que si Laurent nous dit quelque chose, il a globalement à 99% raison. Puis après, par contre, c'est ce travail de documentation, moi, qui me demande beaucoup de temps, d'aller choper les photos de Paul Émile, mais pas que, d'aller choper la photo des voitures qui roulent dans Paris en 1929 et
avec
pas en 1949.
Bon modèle, la bonne rue. Là.
Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne nous rateront pas. Puis il y a des fois, il y a des gros trous dans la raquette, puisque on va prendre l'exemple de la salle Pleyel. La salle Pleyel en 1935, il n'y a pas grand-chose, on a gratté. Et après, donc, du coup, il faut ruser et s'approcher de la réalité, l'inspirer. C'est juste passionnant. Et c'est assez marrant de voir l'accueil que je reçois avec la bande dessinée qui n'est pas sortie, alors que j'ai fait plein de travaux depuis une vingtaine d'années sur Paul Émile. Et là, la bande dessinée suscite tout de suite une sympathie.
Ça ne m'étonne pas. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur les décors. Vous avez parlé des décors tout à l'heure, Laurent. Les décors, ils sont hyper importants dans ce premier volume. Moi, je pense surtout à toute la partie où on voit les grands paysages. Comment vous avez travaillé ça ?
Alors oui, les décors sont importants. On a cette impression, en fait, que l'Arctique ou l'Antarctique, c'est un grand désert blanc. Et en fait, c'est pas le cas. Il y a un continent, il y a des rochers, il y a des montagnes. Il faut arriver justement à... Et c'est pas facile sur des cases, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est très limité en taille. Et donc, il faut arriver à faire comprendre que c'est un continent gigantesque et effectivement couvert de blanc, avec des vents violents, avec des tempêtes qui peuvent se lever comme ça. Et en même temps, il faut arriver à montrer ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, il y a de la montagne, il y a du rocher. Il y a des animaux, même s'il y en a peu, il y a des animaux. Donc, il faut arriver à montrer tout ça. Donc, la documentation, là, je dirais qu'elle est quand même assez simple à trouver. Il suffit de taper sur Google et on trouve tout de suite de la banquise ou voilà. C'est pas vraiment un problème de documentation, c'est plus un problème d'arriver à recréer l'atmosphère.
Et de mettre en scène aussi.
Et de mettre en scène l'atmosphère que les explorateurs peuvent rencontrer là-bas. Et ça, c'est pas facile, c'est pas simple. Donc voilà, j'espère dans le premier tome avoir réussi. Des décors, dans le tome 2, je peux annoncer que c'est encore plus balèze que dans le tome 1. Parce que là, on a des vues de ville, des grands plans d'ensemble. On va avoir aussi des grands plans d'ensemble, justement, de la deuxième expédition. Donc ça va être encore chaud à réaliser, quoi. Et comme disait Stéphane, trouver la documentation quand on fait une BD, on va dire au jour le jour, voilà, ça serait une BD en 2024, ça serait pas bien compliqué à trouver. Là, le problème, c'est qu'on se replonge dans des années 30, 35, 40. Et quand on a un lieu bien précis, et il faut vraiment trouver ce lieu à cette époque-là. Parce qu'effectivement, sinon, il va y avoir des puristes qui ne vont pas nous louper, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Quand j'ai fait la BD sur Pasteur, il y a eu des choses où je me suis trompé. Je me suis trompé dans le bureau. Ça a pas raté, hein. C'est le bureau de Pasteur, c'était pas celui-là. Donc voilà. Donc là, ça sera la même chose sur Paul-Émile Victor. Si malheureusement, on fait quelque chose ou un endroit bien précis à une époque bien précise et que malheureusement, on n'est pas dedans, je pense qu'on aura le retour. C'est sûr et certain. Donc voilà, la documentation est vraiment le lien essentiel de ces bandes dessinées historiques, en fait.
Stéphane, j'aimerais qu'on s'arrête sur les choix, parce qu'on l'a dit, la vie de Paul-Émile était très dense. Donc comment on procède à ces choix? Qu'est-ce qu'on décide de mettre ou de ne pas mettre?
De rester principalement avec Paul-Émile Victor, parce qu'il y a une myriade de personnages tout autour de lui, tous plus intéressants les uns que les autres, souvent, puisque dans la petite histoire, il y a la grande histoire. Je prends un exemple, il rentre de sa première expédition, il va rencontrer Pierre Lazareff, Pierrot les Bretelles, le créateur de François, une figure du monde des médias d'avant-guerre et puis après d'après-guerre d'ailleurs. Et donc là, évidemment, Pierrot les Bretelles, Pierre Lazareff, cette rencontre est décisive. Donc là, tu décides de la mettre en scène, parce que c'est important. C'est ce qui est... En plus, c'est là qu'il change vraiment un peu pour l'état civil de Paul Eugène Victor, il devient Paul-Émile, son nom de scène. Donc voilà, après, il y a plein de choses où, dans la biographie écrite de 488 pages, où j'ai pu aller plus dans le détail, plus aller dans tout ça. Mais j'avais déjà fait aussi ce travail d'épuration, si j'ose dire, de purge, quand j'ai fait le documentaire de 52 minutes, puisqu'un documentaire de 52 minutes, c'est aussi un travail qui nécessite d'aller à l'essentiel. Et donc l'idée, c'est de rester avec Paul-Émile dans les moments un peu trépidant et décisif de sa vie, qui sont des moments de bascule. Si les personnages sont importants, vraiment de les mettre en scène. Et puis tous les personnages secondaires, malheureusement, les seconds rôles, la bande dessinée, là, étant tellement condensée, on n'est malheureusement pas sur 8 épisodes Netflix de 52 minutes. Donc, tu es obligé d'un peu les expurger. C'est mon grand regret, mais je pense à lire le tome 1. Je regrette plus du tout ça, puisque je me dis que en fait, le but, c'est que le lecteur y trouve du plaisir et que ça soit compréhensible, et que s'il y avait trop de personnages, on se perdrait. Donc c'est tout ça. Et puis après, sur la vie de Paul-Émile Victor, c'est aussi bien marqué, mais ça, je pense les 4 tomes vont bien le marquer, cette progression du personnage, qui est cet enfant jurassien plein de rêves, un peu introverti, qui est scout, qui fait cette première expédition, qui est un peu foireuse, on peut le dire, au Groenland, qui est un peu un tâtonnement, mais il rencontre une belle Esquimau, j'en dis pas plus, Doumidia. Et derrière, il y a ce personnage qui va avancer dans la vie avec des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Et c'est pareil pour tout le monde, mais sauf que chez lui, ça prend une ampleur décuplée.
Vous nous avez dit que vous aviez commencé à travailler sur le tome 2 et les 2 tomes suivants. Vous écrivez au fur et à mesure ou tout est déjà écrit?
Non, on a écrit au fur et à mesure. On avait un programme de principe de découpe sur les périodes. Et puis, Stéphane Niveau est un peu plus rigoureux que moi. Parce que moi, quand j'écris la biographie, je dois vous confesser que je suis un peu parti au fil de l'eau et j'ai coupé au fur et à mesure. Mais là, il faut être beaucoup plus raisonnable, je pense. Et là, sur le tome 2, c'était assez évident. Il y avait juste la fin du tome 2. Moi, je pensais qu'on finirait un poil plus tard. Donc, c'est vrai que sur les dernières planches, j'ai un peu accéléré la cadence, mais ça accélérait trop. Donc là, on a eu des grands débats. Et puis sur le tome 3 qui va me donner du fil à retordre, parce que c'est une partie de la vie de Paul-Émile qui est moins connue. La Seconde Guerre mondiale, il transite par les États-Unis. En plus, c'est une période qui est compliquée. On a une lecture de la guerre 39-45 qui est assez manichéenne, mais qui est plus compliquée quand on est avec ses personnages. Il est avec Saint-Exupéry, et il a une lettre de Vichy, mais pas le Vichy qui va promulguer les lois antisémites. Le Vichy qui donnait la possibilité de sortir du pays pour aller faire ton travail ailleurs. Il va transiter par le Maroc, il va être dans la Martinique de l'amiral Robert, qui est épouvantable, mais il va se retrouver aux États-Unis avec tous les gaullistes. Et il y a cette vie trépidante qui le fait aller ensuite dans l'armée américaine, et qu'il va le faire ensuite revenir en France et créer les expéditions polaires. Donc c'est toute une vie que j'avais beaucoup beaucoup travaillé pour la biographie écrite il y a maintenant 9 ans, 10 ans, et j'avais aussi été m'appuyer sur le travail d'universitaire pour être vraiment juste et bien comprendre ce que ça impliquait d'être français dans une France occupée, dans une France collaborationniste. Et puis au fur et à mesure de 39, 40, 41, 42, les choses sont pas les mêmes, et puis essayer de comprendre tout ça. Mais ça va être c'est assez stimulant, puisque c'est des choses que j'adore. Et puis le quatrième tome sera plus sur une partie de sa vie où il balance entre les expéditions polaires, en nous confessant qu'il a horreur du froid, et puis cette vie à Bora Bora. Et l'avantage, c'est que je suis allé vraiment dans tous les endroits clés de sa vie. Je suis allé à Bora Bora, je suis allé au Groenland, je suis allé en Antarctique. Je fais beaucoup de terrain dans ses pas. J'ai vraiment marché dans ses pas au sens physique. Et Stéphane Niveau, qui est aussi guide polaire, qui est aussi un homme de terrain, l'Antarctique, l'Arctique, le Groenland, la banquise, on connaît. Donc on va être exigeant, mon cher Laurent.
Paul-Émile Victor, il a marqué des générations d'enfants, d'adultes, d'adolescents, moi en particulier, moins en ce moment, mais je pense qu'il peut encore marquer des générations de personnes.
Je pense que c'est ces explorateurs dont on a besoin de raconter dans les manuels scolaires, dans les bandes dessinées, les romans graphiques, puisque ces explorateurs du 20e font partie de ces explorateurs qui ont commencé à s'intéresser à l'autre et aux ailleurs, en les considérant les autres. Paul-Émile Victor, c'est les Esquimaux.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le premier tome, voilà, de la bande dessinée.
C'est les Esquimaux qu'on appelle aujourd'hui les Inuits. Et c'est cette école de l'ethnologie, Paul-Émile Victor l'appellera l'ethnologie amoureuse, l'ethnographie, on disait à l'époque. Mais on considère l'autre et on considère que ces us et coutumes qui paraissaient très primaires, très primitifs, en l'occurrence pour les Esquimaux, la civilisation du phoque, le phoque qui était chassé, la peau pour se vêtir, la viande pour se nourrir, la graisse pour se chauffer ou pour faire du shampoing, bah au final, cette cosmologie, ce rapport avec la nature est super intéressant et Paul-Émile Victor fait partie de ces explorateurs qui vont nous donner les derniers témoignages de ces mondes complètement engloutis aujourd'hui, disparus. Ensuite, il y a des gens rouges qui vont être eux plus des cinéastes, ils iront en Afrique. Jean Mallory qui prendra la suite de Paul-Émile Victor et qui sera lui plutôt dans les confins du Nord.
Qui vient de nous quitter. Ouais.
Grande figure de l'exploration polaire. Et tous ces explorateurs vont nous permettre de saisir ces mondes aujourd'hui disparus, puisque si on retourne aux mêmes endroits, ce que j'ai fait, bah, des Esquimaux d'Amasalik, qu'on appelle Tassila aujourd'hui. Moi, j'étais un romantique. Là, il y a une vingtaine d'années, j'allais avec les photos de Paul-Émile en essayant de voir ce qu'étaient devenus les descendants. Et il y avait une partie de la population, même 90%, qui avait oublié tout ça, qui était même dans un phénomène où ils avaient un petit peu honte de leurs ancêtres. Et c'était nous, les Occidentaux, qui leur montrions que leur civilisation, elle était là, quoi. Donc, c'est tous ces explorateurs qui sont très intéressants à raconter, qui sont un peu négligés parce qu'on est dans une époque très manichéenne, très donneuse de leçons. Évidemment, il n'y avait pas une considération pour la nature. Sauf que Paul-Émile Victor fait quand même partie, oui, au milieu des années 70. On le racontera dans le tome 4, des gens qui ont défendu l'homme et son environnement en ayant une conscience environnementale. Donc, c'est tout ça. Et moi, ces explorateurs, ces exploratrices, il y a aussi des femmes d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'intéressent, c'est des humanistes. Et ils font à la fois du terrain, à la fois ils font de la science, qu'on en dise, et ils savent le raconter. C'est des conteurs.
Et c'est des témoins aussi.
C'est des témoins. Ils ont un sens du narratif qui est poussé à une époque où il n'y a pas tout ce qu'on a maintenant, les réseaux sociaux, les séries, etc. Mais ils arrivent à capter le public et à donner du sens à tout ça. Donc moi, je me suis donné cette mission, peut-être pas divine, mais cette mission de le raconter. Et la bande dessinée, je suis ravi parce qu'elle le permet de le raconter aux plus jeunes, de 7 à 97 ans, on va dire. Et surtout, les gens qui me disent tous autour de moi qu'ils n'ont pas le temps de lire des livres. Je crois qu'on doit trop regarder les séries. Et la bande dessinée, il n'y a pas d'excuses. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un très bon accueil. Enfin.
Et justement, on est dans un podcast et on voit dans le premier tome de la bande dessinée que Paul-Émile Victor faisait beaucoup d'enregistrements.
Ouais, parce qu'il utilisait les moyens de l'époque pour enregistrer les chants des Esquimaux. Il a capté la langue, la sonorité, les sonorités Esquimaux. Il avait pris avec lui il a pris soin de prendre avec lui un photographe. Alors, lui faisait de la photo, le collègue ethnographe, anthropologue, pardon, Robert Gessin, faisait aussi de la photo, mais il avait aussi pris un cinéaste, Fred Mather-Stevenier, qui tournait au 16 mm, parce qu'il savait que de faire une expédition, c'est bien, mais de le raconter, le partager, c'est mieux. Et il savait que tout ça, crime de lèse-majesté pour le commandant Charcot, son mentor, c'était aussi l'occasion de faire des conférences qui soient rémunératrices, non pas pour construire un château en Espagne ou avoir un train de vie dispendieux, mais pour repartir en expédition. Et donc, c'est ce modèle de l'explorateur qui vient vous raconter ces merveilleuses histoires, vous vendre ses livres, vous proposer ses livres, passer la radio, qui est un média balbutiant, hein, au mi-temps des années 30, qui va complètement exploser après-guerre. Et donc, tout ça, ce qui est intéressant, c'est ces explorateurs-conteurs, parce que quand on est un explorateur, on est là aussi pour non seulement être sur le terrain, être à la bonne hauteur et raconter le monde avec nuance, mais aussi le partager et voir inspirer.
Bien, merci pour ce beau voyage dans la vie de Paul-Émile Victor. Donc, je rappelle le titre Paul-Émile Victor, la soif d'aventure, chez les éditions du Sequoia. Merci Stéphane.
Merci.
Merci Laurent.
Merci.
Voilà, on espère que vous avoir donné envie hein, d'aller lire cet album Paul-Émile Victor, La soif de l'aventure, de 1907 à 1935. C'est tout simplement passionnant et c'est aux éditions du Sequoia. Bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.